Bonsoir à tous, bienvenue dans un dimanche de campagne, un nouveau rendez-vous politique sur France Inter. Avec vous Thomas Legrand, bonsoir.
Bonsoir Jérôme.
Et avec Claire Servageant que nous retrouverons dès dimanche prochain et que je salue. Nous serons ensemble tous les dimanches, juste après le journal de 18h jusqu'à 19h, parce que la politique va vite, parfois trop vite. Nous prendrons le temps de revenir sur ce qui a fait l'actualité de la semaine et du week-end, et puis de se projeter sur la semaine à venir. Nous le ferons en nous plongeant dans les derniers rebondissements de la campagne, avec la semaine politique de Cyril Lacarrière, ce sera dans une dizaine de minutes, en explorant les plateformes et réseaux sociaux avec la chronique Au Like Citoyen, ce soir assurée par Gaspard G. Bonsoir Gaspard.
Bonsoir.
Vous nous parlerez de Jean-Luc Mélenchon et de son prochain meeting avec des odeurs, paraît-il. Nous verrons que l'histoire des campagnes présidentielles peut nous aider à comprendre l'actuel. Ce seront les bobineaux de Thomas Legrand. Ce soir, comment le candidat Nicolas Sarkozy parlait d'immigration ici lors de la campagne 2007.
L'immigration, j'ose le mot, est une chance pour notre pays. La France est multiple, c'est une richesse, il ne faut pas la craindre, et c'est d'ailleurs la personnalité française que ses origines multiples.
Ah oui, le discours a un peu évolué à droite depuis. Un dimanche de campagne, ce sont aussi chaque semaine deux invités, deux observateurs attentifs de l'actualité politique. Ce soir, Charlotte Chaffanjon, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Libération, et Ludovic Vigogne, bonsoir.
Bonsoir Jérôme.
Journaliste à L'Opinion, merci d'être avec nous pour cette première. On commence tout de suite avec l'actualité politique du week-end.
Un dimanche de campagne.
Jérôme Cadet sur France Inter.
Premier week-end de campagne de cette année 2022 et un premier transfert d'un parti vers un autre qui pour lui n'est pas le premier de transfert. Le député Les Républicains Guillaume Pelletier, ex-numéro 2 de LR, ex-membre du Front National également. Guillaume Pelletier rejoint Éric Zemmour et devient son porte-parole. Il l'annonce ce matin sur CNews.
J'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR. J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République.
Guillaume Pelletier qui rallie Éric Zemmour et quitte LR. Est-ce que c'est un épiphénomène, c'est le mot qu'a choisi Marine Le Pen pour commenter ce départ, ou bien est-ce que c'est un fait politique important qui dit quelque chose des tiraillements qu'il y a en ce moment chez les Républicains entre plusieurs lignes? Ludovic Vigogne, vous qui suivez la droite pour L'Opinion.
C'est un fait politique notable, hein. Il faut quand même pas oublier Guillaume Pelletier, en juillet dernier, il est encore le numéro 2 des Républicains. Mmh. Donc c'était quand même quelqu'un qui comptait encore au sein de ce parti, même s'il s'était assez marginalisé ces derniers mois, qu'il prenait de plus en plus de distance avec les Républicains. Ensuite, c'est un fait important pour Éric Zemmour, parce que c'est sa première grosse prise du côté de LR. Il a beaucoup expliqué ces mois derniers que beaucoup d'élus allaient le rejoindre, notamment de ce camp-là, et personne n'est venu. Donc c'est la première fois quand même qu'il décroche un poids lourd des Républicains. Guillaume Pelletier va ensuite jouer un rôle important dans la campagne d'Éric Zemmour. Il va être porte-parole, ça c'est quasi officiel. Certains l'imaginent même peut-être président de Reconquête.
Mmh, le parti d'Éric Zemmour.
Faut pas oublier, hein, Guillaume Pelletier, c'est quelqu'un quand même, c'est un bon tribun, c'est quelqu'un qui est très efficace médiatiquement, c'est quelqu'un qui a une grande ambition, hein, c'est quelqu'un qui un jour va être candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est quelqu'un-là qui a pris un risque très important, et qui compte bien s'investir à fond aux côtés d'Éric Zemmour pour pas être perdant au lendemain de la présidentielle.
Retour aux sources, a dit Christian Jacob, le patron des Républicains, Thomas Legrand.
Bah oui, parce que Guillaume Pelletier a commencé au Front National et puis après il a été chez Philippe de Villiers, bon, que ce soit l'inverse d'ailleurs.
Philippe de Villiers, dont il a été directeur de campagne en 2007.
C'est quand même un grand voyageur de la droite et de l'extrême droite, et il était assez marginalisé pour être trop à droite à LR, ce qui en ce moment en dit beaucoup quand même, puisque LR a aussi dérivé ces derniers temps, notamment pendant la primaire. Donc c'est pas, moi je pense que c'est pas une énorme prise, hein. C'est une prise qui était attendue, une prise qui était et c'est la seule pour l'instant. C'est la seule, et c'est quand même un personnage qui n'est pas un grand ténor de la droite, qui n'était pas un grand ténor de LR. Donc on va en entendre beaucoup parler. Et alors, je serais un peu inquiet si j'étais à la place d'Éric Zemmour, parce que à chaque fois qu'il a été porte-parole du Front National, enfin porte-parole officielle ou pas du Front National ou de Philippe de Villiers et de LR, il a quand même été très libre dans sa parole et Et je pense que là aussi, il le sera, et ça risque de nous promettre quelques petits couacs qu'on va commenter tous les dimanches soirs avec gourmandise, sûrement.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a, est-ce que ça traduit le fait qu'il y ait plusieurs lignes chez LR, et Guillaume Pelletier était le tenant de l'une de ces lignes, celle qui dit notamment, au second tour, entre Zemmour et Macron, eh ben on choisirait plutôt Zemmour, ce qu'Éric Ciotti a redit cette semaine sur France Inter, Ludovic Vigogne.
Oui, ça veut dire que le défi du rassemblement que s'est donné Valérie Pécresse, c'est pas si simple que ça à tenir. Valérie Pécresse, elle a un défi dans cette campagne, c'est à la fois de faire revenir des électeurs de droite partis chez Emmanuel Macron et à la fois d'empêcher des électeurs de droite de partir chez Éric Zemmour. Et c'est pas facile de jouer sur les deux tableaux en même temps. Alors elle le fait en tapant en priorité sur Emmanuel Macron, en faisant l'adversaire principal, en répétant qu'elle est la seule à pouvoir le battre, en faisant du régalien la colonne vertébrale de sa campagne. Est-ce que ça peut marcher ? C'est un pari. Après, toute l'autre question, et Thomas le disait, c'est est-ce que le départ de Guillaume Pelletier, c'est un cas isolé ou bien c'est le premier d'une longue liste ? On n'a pas la réponse. Moi, j'ai plutôt tendance à penser aujourd'hui que c'est un cas isolé, mais peut-être qu'on aura des surprises.
Pour l'instant, c'est le seul à avoir dit tout haut, avoir salué tout haut aussi fort, notamment les prestations d'Éric Zemmour depuis le début de cette campagne.
Oui, avec une certaine façon un peu Éric Ciotti qui reprenait souvent les thèmes d'Éric Zemmour et qui a dit et qui a confirmé que dans le cadre d'un second tour Ciotti, dans un second tour Zemmour Macron, il voterait Zemmour. Et c'est vrai que ce que disait Ludovic, il y a quand même une partie des électeurs de droite qui préfère Zemmour à Macron. Et c'est cette question-là. Il y a le grand mythe de l'union des droites aussi. Et depuis très longtemps, depuis toujours, avec quelqu'un qui est plus dans l'ombre, qui s'appelle Paul-Marie Couteau, et qui milite pour ça, qui est derrière Éric Zemmour. Et Guillaume Pelletier est de cette tendance-là, qui veut l'union des droites et des extrêmes droites.
Charlotte Chaffonjon.
On peut peut-être rappeler aussi que ça avait été la cause d'une bisbille, même plus que ça, entre Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse en 2018, pour le coup, puisque elle avait théorisé l'idée qu'il y avait désormais deux droites, un petit peu comme Manuel Valls avait théorisé les deux gauches irréconciliables. Mmh. On a un peu oublié que Valérie Pécresse avait fait pareil
pour la droite,
et Laurent Wauquiez lui avait répondu, il y a une droite, une seule famille politique, et ça avait été entre eux source de débat, justement. Donc elle l'avait théorisé déjà depuis longtemps, mais sans doute penser qu'elle devrait elle-même réussir à les réconcilier dans le cadre d'une campagne présidentielle.
Gaspard G, vous qui suivez la campagne, notamment sur le volet numérique et la façon qu'ont les jeunes de vivre cette campagne, ce type de transfert d'un camp à l'autre, est-ce que ça a un impact ? Est-ce que c'est commenté ? Est-ce que ça peut séduire des gens, des électeurs, et des jeunes particulièrement ?
En tout cas, il y a une réaction, moi, que je voulais juste rappeler, parce que Guillaume Pelletier justifie quelque part ce départ au nom des 40% des adhérents LR qui ont voté comme lui, Éric Ciotti. Éric Ciotti qui, quand même, à midi, a tweeté et a dit qu'il était déçu. Il tacle Guillaume Pelletier sur Twitter et il rappelle toute sa fidélité à Valérie Pécresse, alors que pendant cette semaine, on a quand même eu tendance à le rapprocher de la ligne d'Éric Zemmour.
Sur ma question sur l'impact que ça peut avoir, et notamment pour ceux qui suivent la politique sur les réseaux et par exemple sur votre chaîne YouTube.
Bah écoutez, non, je pense que Guillaume Pelletier, en effet, c'était un mouvement, enfin, c'était quelque chose qui était attendu. On ne savait pas profondément ce qu'il allait faire. Maintenant, si vous me posez la question frontalement par rapport à ma génération et la manière dont c'est vécu, Guillaume Pelletier n'est pas plus une personnalité politique ultra connue des jeunes aujourd'hui.
Alors l'autre mouvement du week-end de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est celui de Christiane Taubira qui officialise sa candidature à la primaire populaire.
Je proclame que j'accepte les règles de la primaire populaire. Je prends et j'accepte le risque de la démocratie. Et surtout, j'accepterai le verdict de la primaire populaire. J'invite donc les candidates et candidats de gauche, écologie comprise, à en faire autant.
Christiane Taubira en déplacement à Bondy ce matin en Seine-Saint-Denis au micro de Margot Karoff. Alors je rappelle le principe de la primaire populaire, initiative lancée par des militants de gauche, 300 000 personnes inscrites pour voter en ligne et ils ont donné jusqu'au 15 janvier les organisateurs aux candidats pour se décider, c'est-à-dire la fin de semaine prochaine. Pour l'instant, Christiane Taubira est bien seule. Le candidat écologiste Yannick Jadot n'ira pas, il l'a redit ce midi sur France Inter, je le cite. Quand c'est non, c'est non. Thomas Legrand, pourquoi est-ce qu'elle persiste à vouloir y aller, Christiane Taubira ? Elle est morte cette primaire, non ?
Oh, elle est morte. Non, elle n'est pas morte, puisqu'elle aura lieu. Elle aura lieu. Après, elle aura peut-être aucun effet. C'est-à-dire que on peut se demander quel effet elle pourra avoir. C'est une primaire assez particulière. C'est du vote préférentiel. C'est-à-dire que les électeurs qui choisiront de participer à cette primaire ne choisiront pas un candidat. Ils feront une sorte de tiercé ou de quinté. Ils mettront dans l'ordre les candidats.
1, 2, 3.
Je crois qu'on peut aller même jusqu'à 5. Ça sera précisé, je crois, demain, d'ailleurs, ça. Et les candidats, ce ne sont pas des candidats qui auront décidé de se présenter à cette primaire. Ce seront des candidats qui auront été sélectionnés par les organisateurs de la primaire. Alors, il y a tous les grands candidats de gauche qui sont déjà candidats à la présidentielle, Jadot, Mélenchon.
Il y a leur nom, mais eux, ils ont dit qu'ils ne participeraient pas.
Alors, il n'y a pas le candidat communiste,
Fabien Roussel,
qui n'a pas été sélectionné par ce comité, on ne sait pas pourquoi. Enfin, ils expliqueront tout ça demain. Et donc,
mais Christiane Taubira face à l'eurodéputé Pierre Larrouturou, quel est le...
Non, mais ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que ça ne sera pas Christiane Taubira face à Larrouturou, puisque tout le monde sera potentiellement candidat, même involontaire. Alors, il sortira quoi du chapeau à la fin? On fera la meilleure moyenne, et le vainqueur sera désigné vainqueur. Mais si c'est, imaginons que ça soit Jadot ou Mélenchon. Bon, bah, ça leur fait une belle jambe. Ils diront, bah, très bien, vous êtes gentils, on n'était pas candidat, mais de toute façon, on n'était pas candidat à cette primaire, mais on était candidat. Est-ce que ça va leur créer une dynamique? Si c'est Jadot ou Mélenchon ou Hidalgo, Taubira a dit qu'elle ne se représenterait pas. Bon, bah, on sera au point de départ. Et si c'est Taubira, ça en fera une de plus, ça sera encore pire. Voilà.
Charlotte Chaffranjon, comment vous analysez la sortie de Christiane Taubira de ce matin qui fait un pas vers cette primaire?
Si on tente une réponse rationnelle, ce qui est difficile, parce qu'on est quand même dans quelque chose de très kafkaïen, et on l'a vu avec ce que Thomas Legrand vient d'expliquer, Christiane Taubira répond c'est la plus belle des légitimités. Et quand on regarde les études d'opinion, on en a fait une avec Via Voice pour Libération fin décembre, elle est plébiscitée par les électeurs de gauche pour être la candidate de la gauche à la présidentielle. C'est elle qui arrive en tête devant Jean-Luc Mélenchon et très loin derrière Yannick Jadot, Anne Hidalgo, etc. Donc elle a besoin d'une validation, d'un tampon, parce que malgré tout, Christiane Taubira ne dit plus rien depuis longtemps. À chaque fois qu'elle a pris d'ailleurs la parole, ça a créé des petites polémiques. Je repense à la question de la vaccination. Elle n'avait pas voulu inciter les Guyanais à se faire vacciner. Donc elle a besoin d'une légitimité et d'une validation du peuple de gauche que c'est elle qui doit y aller maintenant. On voit bien depuis début décembre et depuis finalement qu'Anne Hidalgo a permis à Christiane Taubira de rajouter une candidature aux candidatures en demandant l'organisation d'une primaire, que on est dans un perpétuel recommencement. Anne Hidalgo demande une primaire, Yannick Jadot dit non, Jean-Luc Mélenchon dit non, Christiane Taubira demande une primaire, Jean-Luc Mélenchon dit non. En fait, il y a un moment donné, il va falloir que ça cesse, j'ai envie de dire.
C'était un peu le sens de l'expression de Yannick Jadot ce matin, ce midi sur France Inter, qui était encore exaspéré par ces questions.
Oui, qui disait dans Libération cette semaine, alors est-ce que c'était que dans Libération, je ne sais plus, mais en tout cas, on en a parlé. Je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas là pour donner du Xanax aux socialistes. Il y a un moment donné où il va falloir mettre un terme à tout ça. Et il y a quand même une présidentielle dans 3 mois et demi. Il y a quand même des électeurs de gauche, on en reparlera peut-être plus tard, mais qui sont complètement éparpillés et qui ne savent plus du tout en fait où aller. Donc ce sera soit dans l'abstention, soit majoritairement chez Emmanuel Macron, ce qui est un sujet aussi. À 34%, il plébiscite Emmanuel Macron. Donc voilà.
Ludovic Vigogne, Christiane Taubira ira, selon vous, quoi qu'il arrive?
Non, je ne pense pas. D'abord, il est probable qu'elle sorte vainqueur de cette primaire populaire qui a été conçue pour elle. On voit bien que le processus, il a été pensé, imaginé pour elle. C'est un secret de Polichinelle. C'est celle qui a vu le plus les organisateurs, les animateurs du processus. Donc il est très possible, très probable que ce sera elle qui en sortira. Qu'est-ce qui se passera à partir de là? Est-ce qu'elle connaîtra un coup de booster sondagier comme par exemple Valérie Pécresse l'a connu après sa victoire lors du Congrès des Républicains? Si c'est ça, elle peut avoir un surcroît de légitimité en disant que je suis la mieux placée, etc. etc. Le fait d'avoir aussi battu, on le disait, Jadot, Mélenchon, qui sont candidats à l'insu de leur plein gré dans ce processus, ça peut aussi l'aider. Mais c'est quand même un sacré pari, c'est quand même un sacré désordre. Et il y a le risque de Christiane Taubira d'être celle qui pouvait passer comme une solution en fin décembre et qui pourrait devenir
une candidate de plus.
Un élément de plus de la division fin janvier.
Alors qu'elle avait promis l'inverse. 18h24, on passe à la semaine politique.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Avec vous Cyril Lacarrière. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Chaque dimanche, vous nous proposez le résumé sonore de la semaine. Cyril, cette année politique 2022 a débuté tambour battant dès le 1er janvier.
Et le vent souffle sur la campagne française et il a soufflé fort cette semaine avec d'abord cette Europe que l'on ne sait pas si on doit l'aimer, la répudier et même l'afficher.
2022 doit être l'année d'un tournant européen. Et vous pouvez compter sur mon engagement total pour faire de ce moment un temps de progrès.
Emmanuel Macron avait donc son idée en tête et visiblement l'envie d'afficher des symboles. C'est comme ça que le drapeau européen s'est retrouvé suspendu sous l'Arc de Triomphe.
À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
Et c'est rien de le dire, dès Potron Minet, le samedi 1er janvier, une partie de la classe politique rue dans les brancards, outrage, identité française effacée, attentat à l'identité française, provocation, Macron veut en finir avec la France, la droite et l'extrême droite, en particulier en la gueule de bois en ce premier jour de 2022.
Cette faute, elle traduit ce qu'est Emmanuel Macron, et ce qu'il pense et ce qu'il croit. Je crois qu'il n'aime pas la France.
Question politico-philosophique, peut-on aimer la France et l'Europe? En tout cas, l'année était bien lancée et ce n'était qu'un petit apéritif, car cette semaine, c'est aussi l'histoire de...
Et je vous emmerde.
Alors le ton était moins badin que cette chanson de Philippe Catherine, mais sur le fond c'est pareil. Emmanuel Macron a fait passer son message mercredi dans une interview au Parisien, un message assez clair aux Français qui refusent la vaccination. Je vous le cite au cas où vous auriez réussi à passer à côté. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout.
Il y a une idée, il y a un terme, le langage familier on va dire. Là, il s'est exprimé de façon familière. Je pense que tout le monde a compris ce qu'il voulait entendre.
Comme le dit Édouard Philippe, effectivement, on a compris. Mais est-ce qu'un président devrait dire ça? La réponse de ses adversaires politiques.
La vulgarité dans ce domaine n'apporte rien à la force de l'idée.
Je suis très choquée par ce type de propos. D'abord, un président de la République devrait toujours prendre un peu de hauteur.
Un président de la République ne doit pas parler comme ça. Un responsable politique ne doit pas parler comme ça.
Cette vulgarité, cette violence qu'exprime le président de la République démontre une chose, c'est qu'Emmanuel Macron ne s'est jamais considéré que comme le président de ses électeurs de premier tour. C'est une faute politique et je vais même plus loin. C'est une faute morale et c'est une faute morale lourde.
Alors, faute politique ou faute morale, comme le dit Marine Le Pen, ou coup tactique de l'emmerdeur autoproclamé, la sortie est en tout cas calculée. Pour la petite histoire, l'interview publiée dans Le Parisien a été relue par l'Élysée. Le terme a donc bien été validé. La preuve, avant-hier, Emmanuel Macron n'avait pas bougé d'un iota.
Et donc, on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement.
Emmanuel Macron assume. Du coup, quel Emmanuel Macron faut-il croire? Celui qui assume d'emmerder certains Français ou celui qui disait ceci il y a quelques jours sur TF1?
J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que dans certaines dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens.
Le vent souffle encore sur cette campagne et cette semaine, il nous a apporté un air de déjà-vu.
Le terme « nettoyer au Karcher » est un terme qui s'impose, parce qu'il faut nettoyer cela.
Nous sommes en 2005 et Nicolas Sarkozy promet de nettoyer les quartiers au Karcher. 17 ans plus tard, il faut croire que le lavage à haute pression est devenu une Madeleine de Proust pour la droite. Devinez qui est de retour.
Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers.
Sous les yeux d'Éric Ciotti, Valérie Pécresse a donc réactivé le sujet Karcher, voilà qui ne devrait pas faire plaisir à la marque allemande. Trois fois déjà dans le passé, Karcher avait tenté de prendre ses distances avec les propos de la classe politique française. Elle avait même publié plusieurs communiqués de presse et visiblement, ils ont tous allé directement dans la boîte des messages indésirables. Enfin, le vent souffle sur cette campagne et pas toujours pour attiser les tensions. Cette semaine, c'est le candidat communiste Fabien Roussel qui nous veut du bien.
Les jours heureux, ça doit faire du bien à la France. Les jours heureux, c'est pour nous l'occasion de dire aux Français, c'est possible.
Comme le dit un certain Claude MC, dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas de ce que l'on appelle le nouveau western?
Merci à vous Cyril Lacarrière pour cette semaine politique. Si je cite à nouveau MC Solar, bouge de là, une polémique en chasse une autre. Il y a des polémiques qu'on voit mieux venir que d'autres. Cette indignation ou opposition que rappelait Cyril, opposition commune de Mélenchon, Le Pen, Zemmour, Pécresse à la présence du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. C'est inattendu. Thomas Legrand, vous avez parlé de polémique à la noix.
Oui, c'est vraiment c'est vraiment aussi inattendu. Moi, j'étais vraiment surpris. Et c'est une polémique très opportune. Et en plus, je pense qu'elle est stratégiquement de la part de la droite et de l'extrême droite qu'il a initiée assez bête, parce que c'est dans l'intérêt d'Emmanuel Macron de mettre le thème européen au cœur du débat, puisque sur ce thème-là, il est quasiment le seul, peut-être avec les socialistes et les écologistes, mais qui ne le mettent pas en avant, le seul à vouloir défendre comme ça l'Europe. Et donc, en mettant l'Europe, on sait que dans une campagne, ce qui compte, c'est de mettre les thèmes au cœur du débat, les thèmes qui vous sont chers et qui vous sont utiles au cœur du débat. En mettant l'Europe au cœur du débat, bien finalement, je pense, moi, que LR et le Front National et Éric Zemmour ont plutôt rendu service à Valérie Pécresse, parce que cette polémique, moi, me paraît complètement dérisoire et ridicule.
D'accord avec l'analyse de Thomas, Ludovic?
Oui, c'est quand même une drôle de polémique. D'ailleurs, pour ajouter au côté incompréhensible de toute cette histoire, une petite anecdote, c'est que vous savez que le drapeau a été retiré avec 24 heures d'avance, hein. Il devait rester sous l'Arc de Triomphe jusqu'au 2 janvier, et dès le 1er, il avait disparu. Et ben, à l'Élysée, on a fait une enquête interne pour savoir qui avait donné l'ordre de retirer le drapeau. Et je dis, on savait toujours pas. C'est-à-dire, on sait toujours pas ce qui s'est passé, donc c'est quand même une histoire assez. Oui, c'est une histoire assez étonnante du début jusqu'à la fin.
Est-ce que c'est pas paradoxal que la première polémique de l'année s'allume sur l'Europe alors qu'on a le sentiment qu'il y a moins de divergence entre les candidats qu'il y a 5 ans, où Marine Le Pen prônait la sortie de l'euro, où Jean-Luc Mélenchon parlait du plan B, la sortie de l'Union européenne? Ça, ils l'ont mis au placard. Alors, Charlotte Chaffanjou.
Déjà, c'est un petit peu ce que Thomas Legrand disait. C'est vrai que c'est un petit peu un cadeau à faire à Emmanuel Macron qui lui permet de souligner sa cohérence, puisque lui, depuis 2016-2017 qu'il a débarqué dans le paysage, il a toujours dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et d'ailleurs, pour parler de drapeau, il faisait brandir, et c'était assez inédit, des drapeaux européens dans ses meetings. Il avait des drapeaux européens à l'entrée de son QG, et donc du coup, ça lui permet de souligner sa cohérence. Il faut quand même dire que ce drapeau-là était là pour le premier jour de la présidence, enfin, le début de la présidence française de l'Union européenne, que la France a pour 6 mois tous les 13 ans. C'est un hasard du calendrier assez incroyable que ça tombe avec la présidentielle, l'élection présidentielle au milieu. Donc Emmanuel Macron cherche depuis début décembre, on l'a vu avec une conférence de presse organisée à l'Élysée et cette interview du Parisien qui, pour la petite histoire, avait été dealée avant Noël pour parler de la présidence française de l'Union européenne et non pas pour emmerder les anti-vax.
On va y venir.
Voilà. Donc Emmanuel Macron tente de mettre ce sujet-là depuis des semaines sur le devant de la scène. Ouais. Je pense qu'il s'attendait pas à avoir un tel cadeau de la part des oppositions qui l'ont critiqué sur un sujet qu'il assume complètement et qui n'est absolument pas problématique pour lui.
Alors, ça c'était inattendu. Ce qu'il était sans doute moins de son côté, c'était la réaction à cette interview face au lecteur du Parisien mercredi matin avec ce mot magique emmerdé qui a saturé les débats. Il y a des mots comme ça. Quand on les met dans la bouche d'un président, eh bien tout de suite c'est inflammable. C'est l'entrée en campagne du président, Charlotte Chaffanjou, vous qui suivez Emmanuel Macron pour le journal Libération. Il descend dans l'arène.
Ce qu'il y a, c'est que depuis le 12 juillet, on a un peu tendance à écrire toutes les 2-3 semaines, c'est l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, puisqu'il avait fait ce jour-là un discours.
C'est la semaine décisive.
Le 12 juillet, il avait fait un grand discours avec la Tour Eiffel en fond d'écran pour inciter les Français à se faire vacciner tout en déroulant un pré-programme. Il l'a refait le 9 novembre pour inciter les personnes âgées à recevoir une troisième dose, mais en fait c'était 20 minutes de discours sur les retraites et sur son programme économique et la défense de son bilan. Donc en décembre, deux séquences médiatiques importantes avec l'émission de TF1 qui a été jugée ratée par certains de ses plus proches parce que trop empathique, parce qu'Emmanuel Macron n'est pas finalement très bon dans ce genre de cadre beaucoup trop chaleureux, où finalement il n'est pas challengé, où il fait un peu acteur studio, etc.
Quand il fait son mea culpa.
Elle avait été jugée ratée cette interview. Comme la conférence de presse qu'il avait donnée à l'Élysée sur la présidence française de l'Union européenne, où un conseiller de l'exécutif me disait c'était raté, c'est le Macron qu'on n'aime pas, il était professoral à nous apprendre un peu comment fonctionne l'Europe, etc. Donc il fallait un petit peu le retrouver. Je pense que ça a été, ça a été le conseil de certains de ses proches, retrouver Macron. Et finalement, il est arrivé à cette interview en retard, comme souvent, très remonté contre les anti-vax, raconte des témoins, parce qu'il y avait quand même beaucoup de témoins, du coup. Parce que c'était un face au lecteur. Et vraiment, cette charge a été perçue par les témoins comme longue, comme violente, dans sa façon d'être, même presque physiquement. Il a répété le mot emmerdé de nombreuses reprises.
Oui, donc absolument pas un dérapage.
Absolument pas un dérapage, d'autant plus que Cyril Lacarrière l'a dit dans sa chronique, ça a été relu par l'Élysée, validé par l'Élysée. Ce passage n'a pas été retouché, il y a peut-être moins d'emmerdé que ce qu'il a dit en réalité. Donc, complètement assumé. Et en fait, quand on regarde le parcours d'Emmanuel Macron depuis qu'il a une parole publique, finalement, on retrouve Emmanuel Macron. C'est le ministre de l'économie qui, en 2014, disait que les salariés de GATT sont des illettrés. Enfin, on les connaît, toutes ces petites phrases. C'est lui qui dit « Oh, on met un pognon de dingue dans les minima sociaux, où va cet argent ?» C'est le président de la République qui dit « Dans les gares, il y a ceux qui sont rien. » Enfin, le terme emmerdé est fort à l'oreille. Alors lui dit c'est la formule de Pompidou, ce qui est faux d'ailleurs, parce que Pompidou disait il faut pas emmerder les Français, et lui il veut les emmerder.
Il reprend le mot.
Son entourage dit il a un parler à la Audiard, c'est grossier mais c'est pas vulgaire. Donc c'est un peu les éléments de langage. Si il voulait que ce soit inratable. Et son calcul ensuite est de dire qu'il ne perdra pas une voix chez les gens qui lui sont acquis, de ce point de vue-là. Et il y a un calcul un peu cynique que ne nie pas son entourage, qui est de dire que ça peut aussi remobiliser un peu les extrêmes à un moment où Valérie Pécresse commençait à lui faire un peu peur.
Alors c'est inratable, notamment sur les réseaux sociaux, Gaspard G, où le terme a très bien fonctionné, où ça a été beaucoup repris et très commenté.
Oui, l'image recherchée, elle est assez claire. Selon moi, ça permet de montrer à l'écrasante majorité des Français qui ont joué le jeu de la vaccination et qui ont tous déjà certainement pesté une fois ou deux sur les réseaux sociaux ou en dîner de famille contre ces anti-vax, que le président est finalement peut-être un peu comme excédé, fatigué de cette crise à rallonge. Il y a quelque chose de finalement, j'ai l'impression, de très cathartique de voir que le président de la République, lui aussi, a envie d'emmerder ces irréductibles anti-vax. Et puis, c'est surtout une manière aussi pour Emmanuel Macron d'occuper l'espace médiatique.
Et de rassembler son camp. De ce point de vue-là, c'est plutôt réussi, selon un sondage réalisé par Harris Interactive pour LCI mercredi auprès de 1002 personnes. 77% des sympathisants de la majorité présidentielle jugent qu'Emmanuel Macron a eu raison d'employer ces termes. C'était pour eux, Ludovic Vigogne.
L'idée même, c'est de rassembler même un camp plus large. C'est-à-dire que la stratégie, elle était pensée, elle était réfléchie. C'est d'être le porte-parole de la majorité silencieuse, celle qui est lassée de la crise sanitaire, qu'on peut plus des anti-vax, qui voit les reports des opérations, les hôpitaux saturés. Et donc l'idée était de créer un clivage entre d'un côté la raison, les vaccinés, et puis de l'autre côté les anti-vax, les complotistes, les populistes. Donc ça c'était pensé. Ce qui n'a pas été maîtrisé, c'est la formule. Elle n'a pas été travaillée au cordeau, elle n'a pas été préparée en amont. Ça, c'est le fruit d'un dialogue avec, ça a été largement raconté.
Elle a été assumée après, mais pas avant, c'est ça que vous nous dites.
Ouais, moi, ce que je dis, c'est qu'elle n'est pas pensée. Et ce qui est à la limite le plus problématique, c'est pas l'emmerder, c'est j'ai très envie d'emmerder.
Ouais,
il y a quand même un côté extrêmement fait du prince, qui est discutable. Puisqu'il faisait référence à Georges Pompidou dans son interview et son fameux arrêter d'emmerder les Français. S'il avait dit, par exemple, n'arrêtons pas d'emmerder les non-vaccinés, ça passait peut-être mieux. Voilà. Deuxième élément, il y a quand même eu une réflexion à l'Élysée, effectivement, rien n'a été changé, mais il y a quand même une petite tentation de remplacer non-vaccinés par anti-vax. C'était différent de dire j'ai très envie d'emmerder les non-vax, les anti-vax, c'est très différent.
Non, et puis, on n'a pas du tout parlé, mais la deuxième formule quand même de l'interview qui est très problématique, et qui est de dire les irresponsables ne sont pas citoyens, elle est moins forte et moins,
Moins
marquante, mais elle est beaucoup plus grave quand même sur le fond.
Est-ce que cette formule, notamment... laissera des traces.
Je pense que la deuxième formule qui laissera des traces à la longue, parce que emmerder finalement, on se demande tout le temps, est-ce qu'un président peut dire ça? Le général de Gaulle a parlé de chienlit. Moi, je comparerais plutôt avec le mot chienlit, qui en matière de scatologie est plus fort encore qu'emmerder. Et c'est le général de Gaulle qui l'a dit. C'est Georges Pompidou qui a cité le général de Gaulle en sortant du Conseil des ministres. C'était en 1968. Mais moi, c'est pas sur le plan stratégique que ça m'intéresse. Ce que je trouve grave dans cette histoire, c'est que est-ce que ce terme va faire que les vaccinations, le taux de vaccination va augmenter? C'est ça qu'on demande en ce moment au président de la République. S'il est pour les vaccinations, c'est avoir une parole qui incite à la vaccination. Or, le pass vaccinal va certainement inciter à la vaccination, mais pas ce mot. Ce mot freine. C'est-à-dire que les gens qui sont contre le vaccin ne vont pas les vacciner après avoir entendu ça. Et donc, c'est là qu'on peut dire qu'il est vraiment rentré en campagne, qu'il est candidat et qu'il n'est plus président. Et c'est très difficile d'être et candidat et président. Il n'a pas encore trouvé ça. Donc stratégiquement, c'est peut-être une bonne idée. Sur le fond, moi, je trouve que il y a un problème avec cette terminologie. C'est de la politique pas très adulte, je pense.
Le choc des mots, le mot emmerdé dans la bouche d'Emmanuel Macron. Et puis, on a entendu un autre mot dans la semaine politique de Cyril il y a un instant, le mot karcher dans la bouche de Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle. Elle reprend cette expression chère à Nicolas Sarkozy. Elle veut ressortir le karcher de la cave. C'est une manière de ressouder son camp, Ludovic Vigogne, de souligner ce qu'elle considère peut-être comme une faiblesse dans le bilan d'Emmanuel Macron sur la sécurité.
Ça a d'abord été le moyen de détourner le débat. Valérie Pécresse, ce début de semaine, elle était très embêtée par la polémique sur le pass vaccinal. On voyait que ses troupes étaient rétives, que les débats à l'Assemblée se passaient pas bien, que les députés républicains, se divisaient sur cette question-là.
Un tiers.
Exactement.
Un tiers a voté contre, voilà. Un tiers pour et un tiers s'est abstenu.
Et donc c'était un moyen pour elle de sortir de ce mauvais débat pour elle. Deuxièmement, c'était un moyen de retrouver la lumière. Aujourd'hui, quand on parle fort, quand on veut être au cœur du débat, il faut parler fort, il faut saturer l'espace, et elle a fait en sorte, avec une telle formule, de le faire. Et troisièmement, vous le disiez, c'était un moyen aussi d'installer le duel avec Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, elle veut faire du régalien le cœur de sa campagne. Elle estime que c'est le point faible d'Emmanuel Macron. Elle estime que c'est là qu'il y a une attente du peuple de droite. Et dans son sujet de qualification au premier tour face à Marine Le Pen et face à Éric Zemmour, c'est un point important d'être la plus crédible en matière régalienne.
Avec le recours à l'armée dans les quartier, avec proposition d'une législation particulière pour certains territoires dans lesquels il y a une forte insécurité. C'est une proposition qu'a faite aussi Valérie Pécresse. Peut être inflammable aussi.
Elle a fait clairement une semaine.
Surtout pas constitutionnelle, mais bon.
Ouais. Non, mais elle était en meeting. Jeudi soir. Elle a fait un discours extrêmement à droite sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration. Elle a repris la rhétorique de l'assimilation. Elle a expliqué qu'il y avait un risque d'une France défrancisée. Elle a fait un lien direct entre l'immigration et la délinquance. Elle a parlé des ghettos livrés au trafic et aux islamistes. Enfin, vous voyez, zones de non-France. Enfin, le discours est tellement long et tout est dans la même veine qu'on va pas tout citer. Mais s'il y avait un débat en interne à droite sur est-ce qu'il faut, exactement ce que Ludovic Wiggen est en train de dire, faire un pari de premier tour en parlant à la droite dure parce que avec Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils sont dans un mouchoir de poche où il faut quand même faire attention à ne pas complètement décrocher les macronistes hésitants qui sont absolument nécessaires dans un second tour, enfin un électorat plus modéré qui hésite un petit peu. Il semble cette semaine avoir été tranché. Après, on sait très bien que ça peut être un autre... Elle était dans un foyer de femmes battues à Nice, c'était beaucoup plus discret évidemment, mais j'imagine qu'il y aura d'autres séquences plus tournées vers le vote des modérés, mais en tout cas, sa rentrée, s'il fallait lui donner un ton, est clair et net et assez tranché.
Un ton qui lui vient peut-être directement de l'héritage de Nicolas Sarkozy. En tout cas, elle l'a revendiqué cette semaine avec la reprise de ce mot Karcher. Thomas Legrand, chaque dimanche, vous irez fouiller dans les archives des campagnes présidentielles de 1958 à 2017 pour en exhumer les sons qui peuvent éclairer l'actuelle campagne.
C'est le retour des bobineaux.
Les sons, les bobineaux, comme on les appelle à la radio, exactement. Cette semaine, vous avez cherché Thomas, à savoir comment le candidat Sarkozy 2007 puis 2012 parlait d'immigration, éventuellement en faisant un lien avec l'insécurité.
Oui, c'est très intéressant. En 2007, Nicolas Sarkozy développe un discours très strict sur les questions de sécurité, mais il fait bien attention de décorréler la sécurité et l'immigration. C'est le discours du petit français de s'en mêler, même s'il y a déjà l'idée du ministère de l'immigration et de l'identité nationale, donc le thème identitaire, ce n'est pas la même chose que l'insécurité. Le discours de Nicolas Sarkozy en 2007 est très instructif à réécouter aujourd'hui. Rappelons qu'il avait d'ailleurs promis et tenu sa promesse d'en finir avec la double peine.
L'immigration, j'ose le mot, est une chance pour notre pays.
La France est prête à faire des efforts pour mieux intégrer ceux qui viennent d'ailleurs, pour leur donner des droits, pour lutter par tous les moyens contre le racisme et les discriminations.
La France est multiple, c'est une richesse, il ne faut pas la craindre, et c'est d'ailleurs la personnalité française que ses origines multiples.
Thomas, le ton se durcit lors de la campagne de 2012.
Oui, il se durcit, mais vous avez bien entendu ce qu'on a entendu là. On l'entendrait plus de la droite, on l'entendrait même plus sans doute d'une certaine gauche et plus d'Emmanuel Macron. Et en 2012, ça change. Alors, ça commence en 2010, le travail idéologique de son très droitier conseiller Patrick Buisson paie pour sortir d'une forme d'impopularité. Nicolas Sarkozy durcit considérablement son discours. Et il le fait même changer de nature. Et voici un mix du discours de Grenoble en 2010 qui fait tout basculer et des propos de campagne de 2012 du même tonneau.
Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée, avec un taux de chômage des étrangers non communautaires qui a atteint 24% en 2009. Je ne reprendrai pas la célèbre phrase de Michel Rocard, dans laquelle je me retrouve, la France ne peut accueillir toute la misère du monde. Nous sommes si fiers de notre système d'intégration. Peut-être faut-il se réveiller. Il a marché. il ne marche plus. Il est quand même invraisemblable que des jeunes gens de la deuxième, voire de la troisième génération se sentent moins français que leurs parents ou que leurs grands-parents. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie.
Alors, conclusion quand même, Nicolas Sarkozy, libéral sur l'immigration, gagne en 2007, dur sur l'immigration, perd en 2012, il est encore plus dur, je vous ai épargné les propos de 2017, et il perd à la primaire de son propre camp. Que faut-il en conclure? Est-ce que les temps ont à ce point changé? Valérie Pécresse, qui va bien au-delà même de Sarkozy du 2007 et 2017, fait-elle fausse route?
Merci Thomas, je précise que Patrick Buisson, dont vous parliez à l'instant, était aux côtés d'Éric Zemmour hier en Vendée. Réaction autour de la table à ce que vient de dire Thomas, Charlotte Chaffanjon?
J'ai retrouvé une petite archive qui date de 2006 dans Le Monde, c'est Valérie Pécresse qui parle, et donc elle dit, une société métissée qui ne se voit pas comme telle, c'est la France, il faut pourtant le savoir, les habitants des ghettos et ceux des beaux quartiers finiront par se mélanger. Nos frontières vont s'ouvrir à de nouvelles formes d'immigration venant d'Asie, des pays de l'Est. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons peur, la peur de l'autre, de l'étranger. Donc c'est exactement ce que disait Nicolas Sarkozy à cette époque-là. Et on voit le ton, on en a parlé, que Valérie Pécresse emprunte. Et elle regrettait que notre regard toujours nostalgique sur un passé rêvé, une sorte d'âge d'or, qui en réalité n'a jamais existé. Et donc elle a exactement fait le même parcours idéologique, semble-t-il, que ce que Thomas Legrand vient de raconter pour Nicolas Sarkozy. Vous en avez déduit que c'était pas payant électoralement. Du coup,
Je ne sais pas si les temps ont changé ou si.
On verra ce qu'il en sera pour 2022.
Ce que les candidats pourraient vous rétorquer, c'est 2006-2022, de l'eau a coulé sous
les
ponts.
Monde,
la réalité n'est plus la même et donc on a changé notre discours, tout simplement.
Ça confirme qu'il n'y a pas de cohérence, de croyance.
Le monde n'a pas changé à ce point-là non plus.
Il y a aussi une sensibilité de l'opinion qui n'est plus du tout la même. On a tous constaté une droite de la société française, on l'a assez dit. Après, on peut rappeler aussi, si on est juste, l'offre électorale de 2007, Jean-Marie Le Pen, c'est 10%. C'est un vieux patriarche qui est une dernière fois candidat à l'élection présidentielle qui pèse plus grand-chose. Le match, il est avec des candidats qui représentent la modernité, qui est Bayrou, qui est Royal.
Et le casting n'est pas le même.
Le casting n'est pas du tout le même. Le débat, c'est pas du tout sur le même segment électoral. Il se fait au centre, il se fait pas du tout à la droite de la droite.
Ouais, quelle est la sincérité? Qu'est-ce qu'il pense alors? C'est quoi la vérité? C'est juste de la stratégie?
Il y a d'abord de la stratégie, je pense, oui. Et puis après, il y a une
évolution
aussi.
Parce que Valérie Pécresse, quand elle s'adresse à l'Île-de-France, aux électeurs d'Île-de-France, qui connaissent mieux d'ailleurs ces quartiers-là.
Elle a pas le même discours.
Et qui votent moins Front National, est beaucoup plus modérée.
Ludovic Zigone, l'opinion terminée.
Et je voulais dire aussi que Nicolas Sarkozy, quand il est candidat en 2007, il est riche de ses quasiment 5 années passées dans ses habits de ministre de l'Intérieur, où il a fait montre d'une certaine fermeté, où il a redoré le blason de ce job-là. Et donc, quand il se présente, il est riche de ça. Il n'a pas besoin de donner plus de gages que ce qu'il a donné les années passées pour lutter contre l'insécurité et la délinquance.
Gaspard Gé, rapidement là-dessus.
Oui, mais rapidement, rappeler l'ombre d'Éric Ciotti qui pèse sur Valérie Pécresse. Éric Ciotti qui apparaît ici en bon second, d'ailleurs, dans son organigramme de campagne qui a été révélé récemment. Il est conseiller autorité. Et ce mot karcher, ça permet vraiment d'unir toute la droite. On va refaire du Sarkozy, comme vous l'avez si bien rappelé, cette droite qui marchait bien. Il s'agit un peu de durcir le discours. Et je crois que c'est le challenge, en fait, des candidats modérés comme Yannick Jadot ou Valérie Pécresse qui ont gagné leur primaire et qui ont dû, au sein de leur primaire de parti, affronter un adversaire plus radical qu'eux. Éric Ciotti comme Sandrine Rousseau, qui s'impose aujourd'hui en second dans ses équipes de campagne. Et il faut aller séduire sur des idées plus clivantes. Et le karcher ici en est un bon exemple.
Un dimanche de campagne jusqu'à 19h sur France Inter. Chaque dimanche, la campagne, vu des plateformes et des réseaux sociaux, c'est au like citoyen. C'est bon, vous avez la référence autour de la table. Ce soir, c'est avec vous, Gaspard Gé. Vous nous parlez du prochain meeting de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera dimanche prochain à Nantes. Meeting promettent les insoumis d'un nouveau genre.
Et oui, après l'hologramme, place au meeting olfactif et immersif pour Jean-Luc Mélenchon. On se souvient peut-être de cet extrait de campagne en 2017.
Alors, où suis-je ? À Lyon ? Et maintenant, à Paris ?
téléportation. Le plus insoumis des candidats avait médusé son assemblée en février 2017 lors d'un meeting en chair et en os à Lyon devant 12 000 personnes et était apparu d'un claquement de doigts sous forme d'hologramme au même moment près de Paris devant cette fois-ci 6 000 militants venus applaudir la silhouette de leur candidat en 3D. Alors que la France traverse une cinquième vague de Covid, que les meetings politiques brassent beaucoup de monde, les candidats doivent redoubler d'efforts pour trouver de nouvelles idées électorales. Dont acte, le candidat de l'Union Populaire est un habitué des nouveaux dispositifs de campagne numérique. Déjà, à la dernière présidentielle, il était pionnier sur sa chaîne YouTube à multiplier les FAQ et ses revues de la semaine, lui permettant de garder un contact hebdomadaire pendant tout ce quinquennat avec des dizaines de milliers de fidèles. Sa chaîne YouTube compte aujourd'hui 632 000 abonnés, c'est bien plus que celle d'Éric Zemmour qui en compte 365 000 à titre de comparaison. Et toujours pour comparer, Emmanuel Macron est loin derrière avec ses 233 000 abonnés.
Gaspard, vous nous rappelez ce que sont les FAQ, pour tous ceux qui ont bloqué.
Foire aux questions.
Des foires aux questions, voilà Thomas, que vous posez.
J'ai froncé les sourcils.
Et auxquelles les candidats peuvent répondre immédiatement. Gaspard, si je vous suis bien, on se prépare une campagne plus numérique que jamais.
Oui, on n'arrête pas de nous parler de Netflixisation de la campagne, de la bande-annonce nostalgique d'Éric Zemmour à la séquence d'Emmanuel Macron qui souhaite emmerder les non-vaccinés. Le Covid est là, mais show must go on. Le spectacle doit continuer. Dimanche prochain à Nantes, c'est Retour vers le futur. Jean-Luc Mélenchon sera en meeting, donc immersif. Ça vous semble encore un peu abstrait, ne vous inquiétez pas, moi aussi, mais je vais tenter de vous expliquer un peu le dispositif. Donc, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon a annoncé son intention de construire un espace au sein du parc des expositions de Nantes pour recevoir 3000 personnes, une sorte de cube de 50 mètres de côté et de 6 mètres de hauteur. Le député Bastien Lachaud explique que les murs seront recouverts d'écrans sur lesquels 16 vidéoprojecteurs projetteront des images, une technologie qui est inspirée de l'Atelier des Lumières, où l'on peut voir les œuvres de Cézanne ou de Van Gogh s'animer sur les murs. Mmh. Et à ce côté immersif seront ajoutées des diffusions d'odeurs, misées sur les sensations pour être au plus proche de l'immersion.
Mais quelle odeur ?
Alors, ça n'a pas été précisé, des odeurs naturelles.
L'odeur de Jean-Luc Mélenchon.
Comment, oui, et avec l'image, peut-être.
En tout cas, miser sur les sensations, c'est la promesse, en tout cas, de cette équipe de campagne. Le tout avec des masques FFP2. Hashtag, vous n'êtes pas prêts, ça a été tweeté. Hashtag, une première mondiale annonce l'affiche du meeting.
Et énorme impatience de Thomas Legrand.
Ah, vous aurez la réponse. Odeurs, est-ce que ce sera le déodorant de Jean-Luc Mélenchon?
Quelles odeurs dans ce meeting nantais pour Jean-Luc Mélenchon? Réponse dimanche prochain. Merci Gaspard G. La semaine prochaine, c'est Jean Massier qui assurera au Like Citoyen.
France Inter. Un dimanche de campagne.
Jérôme Cadet.
Et c'est déjà une façon de se projeter sur l'actualité politique de la semaine à venir avec ce meeting de Jean-Luc Mélenchon qui pose la question de faire campagne avec le Covid et cette épidémie, cette pandémie qui se poursuit. Mardi, le Premier ministre Jean Castex reçoit les représentants des partis politiques pour parler précisément des modalités de la campagne présidentielle. Qu'est-ce qui est en jeu une fois qu'on a dit que l'accès au meeting n'était pas soumis à la présentation du pass vaccinal et qu'un meeting restait un espace à part? De quoi est-ce qu'ils peuvent bien parler ensemble? Sur quoi est-ce qu'il reste à se mettre d'accord?
Ça peut être la
Charlotte Chaffanjon, Libération.
Ça peut être la question d'éventuelles jauges, mais surtout c'est un débat qu'il y a depuis plusieurs mois et les partis ont commencé déjà un peu à s'adapter en développant des outils de campagne alternatifs, j'ai envie de dire. LREM a... Ils l'auraient peut-être fait sans le Covid, mais en tout cas, ils l'ont fait plus tôt et de manière peut-être plus professionnalisée, lancer une appli où en fait, tous les militants, le réseau, etc. peuvent se parler sans se voir, mm-hmm. sans faire de réunion, se mettre en relation.
À distance. Voilà,
de manière plus distanciée. Et puis, de toute façon, la vie en général pour organiser une campagne va être celle qu'on a tous à peu près depuis 2 ans, c'est-à-dire voilà, plus de distance. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, à partir du moment où ils n'interdisent pas les meetings, de toute façon, des gens se rendront dans des salles et seront collés les uns aux autres. Probablement moins, peut-être parce que le Covid fait un peu peur encore. Mais
moins de grands meetings surtout. Hein, c'est sans doute la fin des grands messes pour cette campagne. Et puis, au-delà de la question de la forme, c'est aussi une question de fond, alors qui ne sera pas évidemment débattue mardi, ce ne sera pas la question. Mais la vraie question, en fait, c'est est-ce que la crise sanitaire va écraser tout le reste? Est-ce que ça va écraser toute la campagne? Si c'est le cas, si ça empêche tout autre débat d'émerger, ce sera très bon pour Emmanuel Macron. Si, en revanche, on parle d'autre chose que de la crise sanitaire, s'il y a d'autres débats qui s'intéressent faire vite, ça peut être plus compliqué pour le président.
Alors précisément, demain, Emmanuel Macron parlera a priori d'autre chose. Il est à Nice, déplacement sur le thème de la sécurité. Puis auprès des victimes des inondations de 2020 dans la vallée de la Roya, il sera aux côtés du maire de Nice, Christian Estrosi, qui le soutient. Est-ce qu'il peut faire des annonces, Thomas Legrand, à 3 mois de la présidentielle, sur ce thème de la sécurité?
Pas sûrement, il fait des annonces tout le temps. Alors je pense qu'à partir du moment où on a décrété, nous, qu'il était en campagne depuis l'interview du Parisien, on peut s'attendre à des annonces qui vont être égrenées comme ça et qui vont être taxées d'annonces de campagne.
Annonce ou promesse, qu'est-ce qu'il peut faire?
Entre une annonce et une promesse...
C'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il y aura un projet de loi sur la sécurité globale qui va être présenté au Conseil des ministres, qui va exposer le projet en matière sécuritaire pour les années à venir, mais qui ne sera pas voté. Voilà, ça va être juste une déclaration d'intention. Donc c'est encore plus bizarre que ça. Entre promesses, mesures... Voilà, c'est quelque chose d'assez...
C'est la période floue.
Non, mais comme le dit Ludovic, ils ont déjà dit qu'il y aurait des annonces sur la sécurité concernant justement cette loi de programmation qui est attendue avant la fin du premier trimestre 2022. Donc, c'est effectivement le Macron en campagne qu'on aura demain. Il va poser la première pierre d'un hôtel de police qui va être très 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 en avant sur la question de la vidéosurveillance et sur la question de la captation. Alors évidemment sur les questions de sécurité, mais pas uniquement, aussi sur la question climatique, parce que ça pourra capter la pollution, la météo, etc. Donc il va faire des belles images avec Christian Estrosi, qui va bien lui expliquer comment fonctionne cet outil moderne et technologique à la pointe de la pointe. Et puis il y a un sujet quand même, c'est qu'il a décidé d'emmerder les antivax la semaine dernière, qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue à Nice. Il y avait beaucoup de monde dans la rue à Nice samedi pour les manifestations anti-pass. Et donc, on est quand même très curieux de voir le comité d'accueil qu'aura le président de la République pour sa première sortie dans un territoire où il y a beaucoup d'opposants au pass vaccinal et de non-vaccinés. Donc ça va être un vrai sujet de voir le candidat s'affronter à ses opposants.
Très rapidement,
oui, c'est le premier déplacement qu'il fait après cette interview fameuse. Et ça va être l'occasion de jauger si ces conditions de campagne seront compliquées ou pas.
On a parlé en ouverture de la primaire populaire et de Christiane Taubira. Autre moment attendu la semaine prochaine, jeudi, la présentation du programme d'Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste pour la présidentielle. Elle sera d'ailleurs l'invitée de la matinale de France Inter jeudi matin, oui, entre 8h20 et
matinale spéciale
et 9h30. Elle abat sa dernière carte, Thomas Legrand.
Oh là, c'est certainement pas sa dernière carte.
Sans doute d'autres l'ont dit avant moi.
Hein. Oui.
On l'a déjà dit.
Là-bas, c'est la dernière carte. Pour elle, c'est la semaine de tous les dangers. On peut y aller dans les poncifs, si vous voulez.
Je vous remercie.
Non, mais ça, on fera tout ça tous les dimanches soirs. C'est normal. Mais on attend avec impatience le programme d'Anne Hidalgo, parce que c'est vrai que pour l'instant, tout ce qu'elle a dit n'a retenu l'attention d'absolument personne. Et donc, il y a eu un élément programmatique qui a été mise en avant au début de sa campagne, c'était le doublement des salaires des profs.
Oui, en 5 ans.
Personne n'y a cru, même pas les profs. Et donc, on attend que le Parti Socialiste, mais c'est vrai aussi pour les écologistes, arrive à conceptualiser l'éco-socialisme ou la social-écologie, qui est quelque chose qui émerge, mais qui n'est pas encore une promesse assez claire et assez pertinente pour les électeurs de gauche. On attend de voir, effectivement, quelle sera la liste des promesses et du programme d'Anne Hidalgo. Et jeudi matin, je vous donne rendez-vous d'ailleurs pour cette matinale spéciale jusqu'à 9h30.
À l'écoute, Charlotte Chaffanjon.
Oui, non, le fond, c'est effectivement très important, surtout que les électeurs de gauche désertent parce qu'il n'y a plus d'idées nouvelles et pas d'innovation, etc. Anne Hidalgo a quand même un problème, c'est que quand bien même elle passe maintenant pour quelqu'un d'assez rassembleur en ayant voulu organiser cette primaire, elle doit recommencer à se présenter comme une candidate, parce que finalement, on ne savait plus trop si elle était candidate, si elle l'était pas. Et donc là, elle disait hier, j'y vais, je m'y colle finalement, mais du coup, il va falloir quand même le refaire comprendre à un électorat potentiel, alors qu'elle n'est même pas à 5% dans les sondages. Même si le fond est très important, je pense qu'elle a d'abord un problème à régler avec le fait que les gens soient au courant qu'elle est candidate là.
Et ce sera à suivre en tout cas pour la présentation de ce programme jeudi. C'est la fin de cette émission, de cette première d'un dimanche de campagne. Et oui, ça passe vite, Thomas Legrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Ludovic Vigogne, que vous lisez dans L'Opinion. Merci à Charlotte Chaffanjon, que vous retrouvez dans les colonnes de Libération. Gaspard G, je renvoie vers votre chaîne YouTube. C'est Portrait de candidat, déjà Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon de disponible. Thomas Legrand, demain matin, 7h40, dans la matinale. Merci
42.
À... 42, il faut le préciser. Merci à Stéphanie Texier à la réalisation. Cyril Lacarrière à la rédaction, en chef Adèle Caglar à la technique. Aux commandes la semaine prochaine, Claire Servageant. Demain matin, c'est Christophe Castaner qui sera l'invité de Nicolas Demorand et Léa Salamé à 8h20. Avant cela, le journal de 19h est à suivre.
Cette élection, mes amis,
nous redonnerons vie à la démocratie.
Pourquoi pas nous ?
Tous les Français !
Merci à vous tous d'être si nombreux.
Voilà ce que je vous propose. Alors,
et vous tous,
vive la République,
vive la liberté,
vive l'écologie.
Et surtout, surtout,